La terre, elle brille, en fait. Elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
That's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que des petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars, I think it would be the greatest adventure ever.
Allez, on est toujours sur de radio. Voilà, on est dans l'ambiance et on a le plaisir de retrouver Michel Favre. Michel, on vous entend.
Bonjour, Joël.
Voilà, on va en profiter pour régler un petit peu le son. En tout cas, Michel, c'est vrai que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas entendu votre voix. Bon, on a échangé par téléphone, bien sûr. Donc, ça va être une chronique astro de manière différente. On avait l'habitude et le plaisir de vous retrouver ici en plateau. Là, vous êtes en Dordogne. Et alors, quelques mots, Michel, avant qu'on présente la chronique. Voilà, ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas eu le plaisir de vous retrouver. Donc, quelques mots en introduction, si vous voulez bien.
Oui, ben, pour employer un peu le néologisme à la mode, c'est le déconfinement de la chronique astro qui a été suspendu 4 mois pendant lesquels on n'est pas passé à l'antenne, enfin je ne suis pas passé à l'antenne, et même 5 parce qu'en fait fin février j'avais dû annuler au dernier moment en raison d'un souci de santé qui n'a rien à voir avec la Covid-19. Et du coup, au lieu, comme d'habitude, de parler des actualités du dernier mois, je vais être obligé de refaire un petit peu le point sur ce qui était important depuis la fin janvier. Et du coup, dans la chronique, il y aura une partie actu beaucoup plus importante que d'habitude.
Voilà, donc avant justement qu'on rentre dans le vif du sujet, je disais en préambule, on aura l'occasion, j'espère, de se retrouver pour une prochaine émission, on parlera des Nuits des Étoiles, etc. Il faut s'adapter, donc là, c'est une nouvelle manière d'échanger. Voilà, mais c'était important de vous retrouver avec plaisir, d'autant que voilà, on aime votre passion et j'espère qu'elle est partagée par beaucoup de monde. Alors, pour ouvrir justement cette chronique Astro numéro 64 sur l'actu, on va repartir, donc comme vous le précisiez, un petit peu en arrière. Fin janvier, lors de la dernière chronique qui avait eu lieu le 29 janvier dernier.
Voilà, et juste le lendemain, le 30 janvier, la NASA a mis fin définitivement à la mission du télescope spatial Spitzer, qui observait dans l'infrarouge. C'est une zone du spectre nécessitant des observatoires spatiaux, car l'atmosphère ne laisse pas passer ses longueurs d'onde jusqu'au sol. Lancée le 25 août 2003, sa principale mission s'était achevée en mai 2009, quand ces réserves d'hélium liquide sont arrivées à épuisement, car l'observation dans l'infrarouge nécessite de refroidir les capteurs à très basse température, environ 5 degrés Kelvin, soit 5 degrés au-dessus du zéro absolu, qui, dans notre échelle habituelle des degrés Celsius, correspond à moins 268, 5 degrés Kelvin. Ainsi, il est possible de révéler des objets plutôt froids dans le cosmos, comme par exemple des étoiles en cours de formation, avant qu'elles ne commencent à produire leurs réactions thermonucléaires qui les rendront chaudes et brillantes, ou la formation des planètes, ou encore des galaxies très lointaines dont le décalage vers le rouge dû à l'expansion de l'univers ne rend plus détectable leur lumière que dans l'infrarouge. Cette mission aura duré 5 ans et demi au lieu des 2 ans et demi prévus au départ, mais Spitzer a connu ensuite une prolongation avec une mission dite chaude, sans refroidissement, mais son isolation thermique permettait de stabiliser sa température à seulement 28 degrés Kelvin. C'est cette deuxième vie qui a pris fin en janvier, après 10 ans supplémentaires d'exploitation. Et puisque nous évoquons un télescope spatial américain, j'en profite pour parler du plus célèbre d'entre eux, Hubble, qui a fêté le 24 avril ses 30 ans en orbite. Pour la petite histoire, je rappelle que ses débuts ont été très décevants, car suite à une légère erreur de courbure de son miroir principal, il était myope, fournissant des images floues pratiquement inexploitables. Et ce n'est que 3 ans plus tard, en décembre 1993, qu'il a pu être réparé par une mission de sauvetage de la navette spatiale Endeavour, dont les astronautes ont installé un dispositif optique correcteur pour rendre l'instrument enfin exploitable. Au total, il y aura eu 5 missions de navettes pour maintenir ou améliorer son fonctionnement, ce qui en fait un observatoire extrêmement coûteux à exploiter, bien plus que les grands télescopes au sol. Depuis l'arrêt des navettes en 2011, il n'y a plus aucun moyen d'aller intervenir sur Hubble, mais heureusement, il a continué à fonctionner en fournissant toujours des images de très grande qualité, car pas brouillées par la traversée de l'atmosphère terrestre par les rayons lumineux provenant des objets cosmiques. Il est prévu de l'arrêter en 2021, quand sera mis en service son successeur, qu'on appelle le JWST, équipé d'un miroir bien plus gros, 6,50 m au lieu des 2,40 m de Hubble. Celui-ci sera placé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, au lieu de l'orbite basse de 590 km de Hubble, ce qui le rendra totalement inaccessible à toute intervention humaine. Donc on espère que tout se passera bien pour lui, notamment le déploiement de son miroir, qui doit être plié pour le lancement, car aucune fusée n'est assez grosse pour l'accueillir en entier.
Alors vous pouvez nous donner des nouvelles également des télescopes terrestres, Michel?
Oui, alors sur Terre, à Hawaï, un nouveau télescope solaire a été mis en service le 28 janvier, le Daniel Ken Inouye, je suppose, Solar Telescope, ou DKIST, baptisé ainsi en l'honneur d'un homme politique américain, sénateur d'Hawaï pendant 50 ans, de 63 à 2012. Avec ses 4 mètres de diamètre, il peut réaliser des images beaucoup plus fines de la surface de notre étoile, car plus un télescope est grand, plus il peut révéler des petits détails. C'est le cas des toutes premières images produites fin janvier sur lesquelles on peut distinguer des structures de la photosphère d'environ 30 km, un record battant nettement les meilleures images solaires précédentes. Je rappelle que nous sommes à environ 150 millions de kilomètres du Soleil et donc que cette précision correspondrait à des détails d'environ 60 mètres sur la Lune, soit la taille d'un grand bâtiment. Et j'ai aussi des nouvelles malheureusement désolantes des grands télescopes puisque le coronavirus aura également fait des dégâts pour l'astronomie, car dans le cadre des mesures de précaution sanitaire, la plupart des grands observatoires ont dû cesser leurs activités, comme par exemple le VLT au Chili, dès le 24 mars. Ce sont donc des semaines d'observation programmées par les chercheurs du monde entier qui ne pourront pas être réalisées. À ma connaissance, et c'est assez logique avec l'épidémie qui continue à se développer en Amérique, les opérations scientifiques n'ont pas encore repris, notamment pour les télescopes européens du Sud, l'ESO, qui confirmait encore le 19 juin le maintien de ses équipements en sommeil. Espérons qu'aucun phénomène cosmique inattendu et rare ne se produise pendant cette suspension des activités.
Et un accident évité de peu, donc au-dessus de nos deux têtes.
Oui, alors c'était aussi à la fin janvier, deux satellites hors service, IRAS, un vieux télescope scientifique, et GGSE-4, un satellite météo militaire américain, ont failli entrer en collision à environ 900 km d'altitude. Ils se sont frôlés à moins de 50 mètres. Cela repose la question du nettoyage des orbites terrestres, notamment des satellites qui ne sont plus en service, mais ont été mis en place avant que des nouvelles règles imposent de les supprimer à la fin de leur mission. Soit en les propulsant à des altitudes très élevées où ils ne seront plus gênants, soit à l'inverse en les faisant chuter dans l'atmosphère où ils se consumeront. Je profite de cet incident pour évoquer la constellation, comme on appelle les ensembles de centaines ou de milliers de galaxies, Starlink, que SpaceX a continué à enrichir ces derniers mois à coup de lancements groupés de dizaines de satellites. Devant compter dans les 12 000 satellites à terme, cet encombrement massif de notre ciel pose la question d'un risque accru de collision, pouvant produire un nombre exponentiel de débits dangereux, même pour les missions spatiales humaines, comme c'était illustré dans le film Gravity en 2013. Mais c'est aussi une forme de pollution visuelle du ciel, avec des milliers de points mobiles qui brouillent notre vision des étoiles, des constellations et des objets cosmiques, contre laquelle protestent les astronomes amateurs et professionnels. Pendant le confinement, plusieurs témoins m'ont signalé le passage spectaculaire de ces véritables trains de satellites, bien visibles les jours suivant leur lancement, quand ils n'ont pas encore rejoint leur orbite définitive où ils doivent en principe se faire plus discrets. En dépit de l'épidémie...
Oui, tout à fait, Michel. Les missions spatiales habitées se sont poursuivies, donc.
Voilà. Oui, mais en prenant toujours des précautions sanitaires, car Covid ou pas, les astronautes doivent subir une quarantaine avant leur départ pour éviter au maximum tout risque qu'ils tombent malades pendant leur mission. Et encore pire, avec une maladie contagieuse qui pourrait toucher tout un équipage. Le 6 février, un vaisseau Soyouz revenait de l'ISS avec à son bord deux recordman du séjour dans l'espace. L'américaine Christina Kaur de la NASA, qui détient maintenant le record de séjour dans l'espace pour une femme, avec 328 jours. Dépassant nettement celui de Peggy Whiston avec 288 jours en 2016-2017, qui était d'ailleurs monté à bord de l'ISS lors du même lancement que le Français Thomas Pesquet. Le deuxième record est européen avec l'Italien Luca Mitano, pardon, qui a effectué le plus de sorties spatiales, 6 au cours de sa mission, ce qui lui a fait passer plus de 33 heures hors de l'ISS. À titre de comparaison, Thomas Pesquet n'était sorti que 2 fois en scaphandre dans l'espace pour une durée totale de 12 heures et demie. Pour ce qui concerne la mission humaine plus lointaine, c'est le 10 février que la Maison-Blanche a publié sa proposition de budget 2021 pour la NASA, soit environ dans les 25 milliards de dollars, dans laquelle la présidence américaine réaffirme son engagement pour un retour sur la Lune dès 2024, avec la fusée géante SLS, un Space Launch System, dont les essais devraient commencer en 2021, et la capsule Orion à laquelle contribue l'ESA, l'Agence spatiale européenne, mais sans passer, comme on le pensait auparavant, par une station en orbite autour de la Lune ou Gateway, qui a pris trop de retard pour être prête à temps, comme ça a été annoncé mi-mars. Pardon. Le projet lunaire est baptisé globalement Artemis, nom qui fait écho aux missions lunaires Apollo des années 1970, car dans la mythologie grecque, Apollon et Artemis étaient frères et sœurs jumeaux. Le coût total du projet Artemis est estimé à environ 35 milliards de dollars. Dans la foulée, la NASA a annoncé ses choix pour les prochaines missions dites à bas coût, à moins de 500 millions de dollars, du programme Discovery d'exploration du système solaire. Après une étude plus approfondie, 2 seront choisis en 2021 pour se concrétiser parmi les 4 finalistes. Il y a Da Vinci Plus, qui irait étudier l'atmosphère et la surface de Vénus avec un orbiteur. Veritas, qui se propose de réaliser une cartographie radar complète de la surface de cette planète à l'atmosphère opaque, avec une bien meilleure précision que ce qui avait été réalisé au début des années 90 par la sonde Magellan. IVEO, qui enverrait une sonde en orbite autour de Jupiter, surtout pour étudier son satellite Io au volcanisme actif. Et Trident, qui viserait à étudier Triton, le gros satellite de Neptune, qui recèle peut-être un océan liquide sous sa surface et qui n'a pas été visité depuis la sonde Voyager 2 en 1989. Le résultat du concours sera connu dans quelques mois.
Et est-ce qu'on a des nouvelles, Michel, des sondes parties explorer d'autres planètes comme Mars, par exemple ?
Alors effectivement, mais elles sont plutôt mitigées. La sonde américaine InSight, lancée en mai 2018 et arrivée sur la planète rouge en novembre, connaît quelques difficultés. Destinée à étudier le sous-sol martien, elle a déployé très vite son sismographe CEIS, développé par des partenaires européens sous la conduite du CNES français. Mais le détecteur de chaleur interne, qui s'appelle HP3, fourni par l'agence spatiale allemande, la DLR, n'a jamais réussi à se frayer un chemin jusqu'à 5 mètres de profondeur dans le sol comme c'était prévu. La méthode envisagée avec un petit foreur par choc ayant échoué, les responsables de la mission ont tenté plusieurs autres techniques pour finir en mars dernier par essayer de la pousser avec une petite pelle robotisée équipant la sonde. Le 3 juin dernier, le responsable de l'instrument annonçait que la manœuvre avait réussi à enfoncer complètement le perforateur dans le sol martien, soit une longueur d'environ 30 cm. Ils ont donc repris le forage en utilisant le dispositif de percussion, une sorte de marteau interne produisant des chocs pour enfoncer petit à petit l'engin, en tirant derrière lui le ruban détecteur de chaleur. Mais on voit qu'on est encore très loin des 5 mètres de profondeur visée. Il y a aussi des déboires européens dans l'exploration de Mars, car le 12 mars, justement, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a annoncé le report de 2 ans du lancement de sa sonde ExoMars, qui devait partir normalement le 25 juillet. En effet, comme je l'ai déjà expliqué ici à plusieurs reprises, c'est environ tous les 2 ans que se présente une fenêtre de tir des missions vers la planète rouge pour profiter d'un trajet plus court cet été pour 2020. Cette mission de l'ESA, en coopération avec l'agence russe Roscosmos, avait déjà connu un report en 2018, par prudence, après le demi-échec de la mission de 2016 où l'atterrisseur Schiaparelli s'était crashé à la surface de la planète. Encore une fois, c'est l'atterrissage qui pose problème, avec des parachutes de freinage qui n'ont pas réussi correctement leur test en 2019, et le délai a été jugé trop court pour les qualifier avant le lancement programmé cet été. C'est dommage car l'objectif de cette mission était la recherche d'indices d'une vie présente ou passée sur Mars, et il faudra attendre encore 2 ans de plus pour tenter de résoudre cette question qui taraude l'humanité depuis des décennies.
Alors, pendant le confinement, est-ce qu'on pouvait regarder aussi le ciel ?
Alors effectivement, dans notre récapitulation qui est plus ou moins chronologique, nous arrivons vers la mi-mars où nous avons tous commencé une période inédite où on ne pouvait plus circuler à notre gré. Il était possible d'observer la nature dans une ambiance plus calme et on a tous vu des reportages sur les oiseaux, renards ou sangliers dans les villes. D'ailleurs chez moi, dans la campagne périgourdine, ce sont des chevreuils qui traversent de temps en temps ma pelouse. Mais il était aussi possible de tourner ses yeux vers le ciel le soir, comme le proposait l'AFA, l'Association française d'astronomie, même depuis un appartement, tout simplement de son balcon ou par les fenêtres, notamment pour voir Vénus briller dès le crépuscule. À ce moment, les astronomes nourrissaient de grands espoirs pour une petite comète découverte en décembre 2019, immatriculée C2019Y4 Atlas, et dont on pensait en fin mars qu'elle pourrait devenir visible à l'œil nu en mai, à l'occasion de son approche de la Terre et du Soleil. Malheureusement, elle a fait pchit, hein, si je peux me permettre cette expression, en se disloquant début avril en une trentaine de morceaux. Je profite de ce petit détour par le ciel pour évoquer de nouveau le cas de Bételgeuse, l'étoile habituellement la plus brillante de la belle constellation d'hiver Orion, dont l'éclat avait progressivement diminué depuis l'automne au point d'être surpassé par Rigel, un niveau plus bas que ce qui n'avait jamais été observé depuis qu'on étudie cette étoile dont on connaît la variabilité. Après être passée par un minimum historique mi-février, elle a repris peu à peu un éclat plus habituel. Je rappelle que les variations d'éclat de cette étoile géante rouge, plus de 800 fois le diamètre du Soleil, donc elle est vraiment énorme, semblent traduire une certaine instabilité de fin de vie avant son explosion en supernova, que les astronomes attendent avec impatience, même si elle peut ne survenir que dans peut-être 1000 ans ou même plus.
Alors Michel, est-ce qu'il y aura eu des anniversaires que malheureusement le confinement nous aurait fait rater?
Oui, alors depuis quelques mois, on évoquait les missions Apollo, hein, dont les principales étapes, et en avril, on aurait pu fêter le cinquantenaire de la célèbre mission Apollo 13, qui a été à la fois un échec, puisqu'elle n'ayant pas permis de poser des astronautes sur la surface de la Lune comme prévu, et un succès incroyable du sauvetage improvisé qui a ramené sain et sauf l'équipage sur Terre après un accident très grave. C'est le 14 avril 1970, vers 4 heures, heure française, mais pour les superstitieux du chiffre 13, il faut savoir que c'est encore le 13 avril aux États-Unis, que Jacques Swigert, seul dans la capsule pendant que ses collègues sont dans le module lunaire, prononce la phrase devenue célèbre « Nous, Houston, on a eu un problème ». D'ailleurs, je crois que cette phrase, on peut l'entendre dans le petit générique qui précède la chronique. Il signale ainsi au centre de contrôle qu'une explosion vient de se produire à bord, dans le module de service, et les conséquences sont terribles puisque le vaisseau perd rapidement son oxygène, indispensable à la survie de l'équipage. Par malchance, ils avaient déjà commencé leur transfert vers la Lune et il n'y a pas d'autre solution que de continuer sur cette trajectoire, contourner la Lune avant de revenir sur Terre, les obligeant à une survie précaire pendant plus de 3 jours dans le module lunaire, ou LEM, avec une température descendant jusqu'à 9 degrés pour économiser l'énergie et dans une atmosphère devenant progressivement irrespirable, jusqu'à ce qu'un bricolage de fortune avec des sacs plastiques et du ruban adhésif permette d'utiliser des filtres conçus pour la capsule, mais incompatibles avec les systèmes du LEM. C'est presque un miracle de réussir la rentrée dans l'atmosphère en pilotage manuel, alors qu'une très faible erreur de trajectoire peut soit les renvoyer dans l'espace par rebond, ou à l'inverse, les plonger dans une descente trop abrupte, conduisant la capsule à se consumer au contact trop rapide avec l'air. Et enfin, l'amerrissage le 17 avril, est un soulagement pour toute la planète qui a suivi en direct à la télé les différentes péripéties de cette aventure sans égale.
Et justement, sait-on exactement ce qui s'est produit ?
Après enquête, on connaît tous les détails de cet accident qui ne doit rien à la malchance. C'est plutôt un raté de l'énorme machine que constituaient la NASA et ses milliers de sous-traitants pour réussir, à marche forcée, l'objectif de poser des hommes sur la Lune en moins de 10 ans, comme l'avait annoncé le président Kennedy lors de son célèbre discours du 25 mai 1961 devant le Congrès. Le réservoir d'oxygène qui a explosé a été fabriqué en 1966, hein, donc 4 ans avant, par la société Beech Aircraft Corporation, et il est monté en juin 1968 dans le module de service qui devait être utilisé pour la mission Apollo 10. Mais en octobre, il est démonté suite à des modifications que la NASA veut effectuer sur ce module. Pendant l'opération, une grue laisse chuter de quelques centimètres une structure métallique sur ce réservoir, mais les dégâts semblent mineurs. Sauf qu'il n'est pas possible de voir qu'un des tuyaux utilisés pour sa vidange est endommagé. Il est finalement monté en novembre dans le module de service de la future mission Apollo 13. Lors d'une simulation du compte à rebours du décollage sur l'aire de lancement le 16 mars 1970, donc à peu près 15 jours avant le décollage, il est rempli d'oxygène, mais les techniciens s'aperçoivent qu'ils n'arrivent pas à le vidanger comme prévu. Une nouvelle tentative pour le vider le 27 mars échoue de nouveau, 2/3 de l'oxygène qu'il contient restant à l'intérieur. Pour finir de le vider, il est décidé d'utiliser un système de brassage du gaz et de chauffage dont il est équipé, en prenant bien garde de ne pas dépasser une certaine température de sécurité, 27 degrés. Sauf que depuis le début du programme Apollo, la tension sur le pas de tir a été modifiée à 65 volts au lieu de 27 utilisés auparavant. Du coup, la longue opération de brassage et de chauffage qui dure plus de 14 heures fait monter la température à l'intérieur du réservoir à plus de 500 degrés, sans que personne ne le sache. La conséquence est la fonte des isolants des câbles électriques. Comme un nouveau test de remplissage se déroule sans problème le 30 mars et que lors des discussions sur l'incident, personne n'est au courant de l'accident de grue, le problème est classé comme réglé car durant un vol, les astronautes n'ont jamais à vidanger un réservoir d'oxygène. Apollo 13 décolle donc le 11 avril 1970 à 20h13, heure française, mais encore un petit clin d'œil aux superstitieux parce qu'en Floride, il est 13h13. Tout se déroule bien et le vaisseau entame son trajet vers la Lune jusqu'à une manœuvre de routine de l'équipage consistant à mettre en route le système de brassage de l'oxygène dans les réservoirs. Les câbles mal isolés produisent alors un arc électrique qui enflamme l'oxygène pur et provoque l'explosion du réservoir, endommageant gravement le module de service. Comme on le voit, plutôt qu'une fatalité imprévisible ou des erreurs graves de conception, c'est la grande complexité de ces projets spatiaux et l'accumulation de petites erreurs humaines qui provoquent de telles catastrophes. On retrouve de tels dysfonctionnements à l'origine des accidents malheureusement mortels des navettes spatiales. L'explosion de la navette Challenger au décollage le 28 janvier 1986 a été provoquée par la défaillance d'un joint d'un propulseur à poudre en raison du froid. Il avait fait autour de 4 degrés sur le pas de tir la nuit précédant le lancement. Mais ce genre de faiblesse était connu depuis 1977. Pour la destruction de la navette Columbia lors de sa rentrée atmosphérique le 1er janvier 2003, la cause est le dommage aux tuiles de protection thermique de l'aile gauche percutée au décollage par un morceau de la mousse isolante du réservoir extérieur. Ce problème au décollage avait été détecté 2 lancements plus tôt lors de la mission STS-112 de la navette Atlantis en octobre 2002. Mais l'analyse du problème n'avait pas conclu à un risque important devant conduire à l'arrêt des lancements des navettes. Comme on le voit dans ces différents exemples, c'est bien au premier chef la complexité technique des systèmes spatiaux et de l'organisation humaine qui les supporte qui peuvent être la cause de leur fragilité.
Mais heureusement, ces derniers mois ont aussi vu quelques réussites dans l'espace, n'est-ce pas Michel ?
Oui, alors comme par exemple la sonde Depi Colombo qui a pris des images de la Terre le 10 avril dernier. L'objectif de cette mission de l'ESA en partenariat avec la JAXA, l'agence spatiale japonaise, est en fait la planète Mercure. Mais depuis son lancement le 19 octobre 2018, elle suit une trajectoire complexe pour profiter des frontes gravitationnelles en survolant la Terre, 2 fois Vénus et 6 fois Mercure, ces dernières manœuvres permettant de réduire progressivement sa vitesse pour se placer enfin en orbite en décembre 2025. Vous voyez, elle n'est pas encore arrivée. Le survol rapproché des planètes, 12 700 km pour la Terre en avril, était bien sûr l'occasion de tester les instruments scientifiques et les caméras de la sonde. Cette sonde a la particularité d'avoir emporté très peu de carburant, car elle est équipée d'un système de propulsion ionique, utilisant l'électricité produite par 2 énormes panneaux solaires de 14 mètres de long chacun. L'objectif de ces 2 orbiteurs, MPO construit par les Européens et MMO par les Japonais, et de mieux connaître la géologie de Mercure, d'essayer de comprendre sa formation, d'étudier son champ magnétique qui est très influencé par le vent solaire, ou d'expliquer la présence de glace sur certaines zones de sa surface. Mercure est la planète tellurique la plus proche du Soleil et la moins bien connue du système solaire, hein, les trois autres sont la Terre, Mars et Vénus, car visitée uniquement par les 2 sondes américaines Mariner 10 en 1974 et Messenger entre 2011 et 2015. Et on arrive enfin au mois de mai, qui a vu la réussite de 2 lanceurs lourds destinés à notation, notamment aux missions spatiales humaines. Du côté chinois, c'est le dernier test de qualification de la fusée Long March 5 qui s'est bien déroulé le 5 mai, avec un nouveau vaisseau à son sommet, mais sans équipage à bord. À noter que cette nouvelle capsule qui doit prendre la suite des Shenzhou, utilisée actuellement, n'a pas encore reçu de nom officiel. Ce lanceur, conçu pour propulser des missions habitées, pourra donc être utilisé comme prévu cet été pour envoyer la sonde martienne Tianwen 1, puis en fin d'année la sonde lunaire Chang'e 5, avant de mettre en orbite, sans doute dès l'an prochain, les éléments de la future station spatiale chinoise Tiangong 3. Et bien sûr, nos auditeurs n'ont pas pu manquer, côté américain, le très grand succès, notamment médiatique, de la NASA et de la société privée SpaceX, avec l'envoi de deux astronautes vers l'ISS le 30 mai, après un report de 3 jours, dû à la mauvaise météo sur le pas de tir en Floride. Cette opération délicate a été un vrai succès, avec le retour en douceur du premier étage de la fusée Falcon 9 et l'amarrage du vaisseau Crew Dragon à l'ISS le lendemain. Il reste encore à réussir le retour sur Terre de la capsule dans 4 mois environ, opération qui avait été testée avec succès mais sans équipage lors du précédent essai en mars 2019. Si tout se passe comme prévu, un autre tir, cette fois commercial, est prévu dès la fin août pour envoyer un nouvel équipage de 4 astronautes vers l'ISS. Nos auditeurs ont pu voir que le président Trump s'était déplacé pour assister en direct à l'événement, car avec ce lancement, les USA renouent historiquement avec leur capacité d'envoyer des hommes dans l'espace, ce qu'ils ne pouvaient plus faire depuis presque 10 ans, avec l'arrêt des navettes spatiales en 2011. N'ayant aucun lanceur assez puissant et dépendant entièrement des Russes et de leur Soyouz pour acheminer les astronautes vers l'ISS. Cette première marque aussi l'avènement du New Space, comme on l'a baptisé, c'est-à-dire l'intervention directe des sociétés privées comme SpaceX pour réaliser des opérations complètes et non plus en simple sous-traitant de la NASA. D'ailleurs, son Challenger, Boeing, et son vaisseau CST-100 Starliner sont aussi en phase de qualification. Mais ayant raté son premier test sans équipage en décembre, la capsule n'ayant pas pu atteindre l'ISS, un autre vol à vide est prévu cet automne, ce qui repousserait le premier test avec équipage pour 2021. On voit donc que SpaceX, et donc Elon Musk, son patron, a pris une bonne longueur d'avance sur son principal concurrent sur ce marché. À noter que l'astronome français Thomas Pesquet, qui doit retourner à bord de l'ISS pour une mission de 6 mois en 2021, peut-être en juillet ou en automne, sera susceptible de décoller dans l'une ou l'autre de ces deux capsules privées.
Alors, quelques nouvelles, quelques infos du côté de la recherche. Alors, quoi de neuf, Michel, dans l'univers?
Alors, pour terminer cette longue série d'actualités, 2 informations sur le cosmos et ses objets parfois étranges. Tout d'abord, à propos de notre Soleil, une étude publiée le 25 mai par des chercheurs européens dans Nature Astronomy essaie d'établir la dynamique de la collision de notre grande galaxie, la Voie lactée, avec une petite voisine appelée galaxie naine du Sagittaire, car située dans la direction de cette constellation. Cette rencontre a commencé il y a environ 6 milliards d'années et se poursuit encore aujourd'hui. Leur analyse, basée sur les données fournies par la sonde européenne Gaïa, qui détermine avec une très grande précision la position et le mouvement de plus d'un milliard d'étoiles de la Voie lactée, indiquerait que le rapprochement le plus serré avec la petite galaxie aurait eu lieu il y a environ 5,7 milliards d'années, produisant une perturbation gravitationnelle du gaz de la Voie lactée, étant sans doute la cause d'une période de formation de nouvelles étoiles en son sein. Et comme notre système solaire a dans les 4,5 milliards d'années, il pourrait s'être formé suite à cet événement cosmique. Début mai, dans la revue Astronomy and Astrophysics, des astronomes de l'ESO, l'Observatoire européen du Sud, ont annoncé leur découverte d'un trou noir situé seulement, si je peux dire, à 1000 années-lumière de la Terre, qui en ferait le plus proche de nous connu à ce jour, 3 fois plus près que le précédent record. Avec un télescope de 2 mètres de l'observatoire de La Silla, au Chili, ils étudient un système binaire, c'est-à-dire un couple de 2 étoiles orbitant l'une autour de l'autre, nommé HR6819, quand ils ont constaté, par le mouvement d'une des 2 composantes, que le système comprenait en fait un 3e objet inconnu, invisible, bien que d'une masse estimée à 4 fois celle de notre Soleil, provoquant la révolution de cette étoile autour de lui en 40 jours seulement, c'est-à-dire à une distance inférieure à celle de la Terre par rapport au Soleil. Pardon. Dans la panoplie des objets célestes connus, seul un trou noir peut correspondre à ces caractéristiques. Cette découverte fait penser que l'on a probablement sous-estimé la population de trous noirs dans notre galaxie et on s'attend à d'autres découvertes analogues prochainement. Et enfin, si on revient sur Terre, pour 2 phénomènes prévus et connus de longue date, qui se sont déroulés le même jour, le 21 juin, dimanche dernier. C'était à la fois le solstice d'été et en même temps se produisait une éclipse annulaire du soleil visible surtout en Asie et dont on a beaucoup parlé dans les médias avec le titre racoleur de cercle de feu, qui est impropre car en fait il n'y a pas de feu à la surface du soleil, son éclat provenant des réactions nucléaires qui se déroulent dans son cœur. Pardon. Pour le solstice, il s'agit simplement du passage du Soleil à sa position la plus décalée vers le nord par rapport à l'équateur céleste, c'est-à-dire la projection de l'équateur terrestre sur la voûte céleste. Cet écart est lié à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport à son orbite autour du Soleil, phénomène à l'origine des saisons car il provoque une variation de la hauteur du soleil dans le ciel, donc de son efficacité pour nous chauffer, et de la durée des journées. Dans l'hémisphère nord, comme en France, le solstice d'été est la journée la plus longue de l'année, avec pour nous presque 16 heures, et la nuit la plus courte avec dans les 8 heures, et même beaucoup moins si on tient compte du crépuscule et de l'aube, les périodes du soir et du matin, quand le soleil n'est pas dans le ciel, mais qu'il ne fait pas nuit. Par convention, le solstice marque l'entrée dans l'été pour l'hémisphère nord et dans l'hiver pour l'hémisphère sud, où la situation est inversée. La saison prendra fin officiellement le 22 septembre, à l'équinoxe d'automne, quand le soleil passera exactement sur l'équateur, pardon, ce qui produit une journée équilibrée avec autant de jours que de nuits, 12 heures chaque, partout sur Terre. Pour l'éclipse, je vais l'aborder dans notre thématique du mois, mais en préambule, je me suis intéressé à cette coïncidence de calendrier, pensant qu'elle pouvait être assez rare, car l'éclipse nécessite que la nouvelle lune tombe au solstice et en plus que l'alignement se fasse avec le soleil. Pour être précis, le solstice a eu lieu en fait le 20 juin à minuit moins le quart, heure française, mais c'était bien déjà le 21 juin en Asie quand l'éclipse y était visible. Finalement, ce n'est pas si rare, car les éphémérines, hein, je les ai consultées, nous rappellent que ça s'est produit il y a 19 ans, avec l'éclipse totale du 21 juin 2001, et que ça se reproduira aussi dans 19 ans, avec l'éclipse annulaire du 21 juin 2039, qui sera visible en Alaska et dans l'extrême nord de l'Europe, la Norvège, la Suède et la Finlande.
Allez, on est toujours en direct sur Eau de Radio, voilà, avec toujours Michel Favret pour cette 64e chronique astro. Or, Michel, deuxième point de votre chronique, le sujet et le thème, les éclipses de soleil.
Voilà. Alors, comme la partie actualité a été assez longue pour attraper les 5 points de retard, et que j'ai déjà abordé le sujet des éclipses ici à plusieurs reprises, la dernière fois c'était en janvier 2019, je me contenterai de rappeler seulement les éléments importants concernant les éclipses de soleil. Ce phénomène met en jeu trois corps célestes, la Terre, planète que nous connaissons le mieux, le Soleil, notre étoile autour de laquelle nous orbitons, et la Lune, notre satellite naturel qui tourne autour de nous en un peu moins d'un mois. Cette période, avec le cycle bien visible des phases changeantes de la Lune dans le ciel jour après jour, étant à l'origine du mois comme nous le connaissons dans le calendrier. Pour qu'il y ait éclipse, il faut que ces trois corps soient alignés dans l'espace, soit que la Lune s'interpose entre nous et le Soleil en le masquant, c'est alors une éclipse de Soleil, soit à l'inverse que la Lune passe dans l'ombre de la Terre et c'est alors une éclipse de Lune. Par une curieuse coïncidence, la Lune est à peu près 400 fois plus petite que le Soleil en diamètre, soit environ un quart de celui de la Terre, mais aussi 400 fois plus près de nous, ce qui fait qu'elle peut le masquer presque exactement en nous révélant son atmosphère très lumineuse, la couronne solaire, ce qui produit cette vision impressionnante pendant les 2 ou 3 minutes que dure en général une éclipse totale de Soleil. La Lune n'orbite pas autour de la Terre dans le même plan que celle-ci autour du Soleil, appelée écliptique, justement parce que c'est là que peuvent se produire les éclipses. Son orbite est inclinée d'environ 5 degrés par rapport à l'écliptique, ce qui fait que quand la Lune passe pour nous du côté du Soleil, ce qui se produit à chaque lunaison, donc à peu près tous les 29 ou 30 jours, elle passe soit au-dessus, soit au-dessous du Soleil sans le masquer. C'est simplement la nouvelle Lune, indiquée par un petit rond noir dans le calendrier, jour où on ne peut pas voir la Lune dans le ciel car elle le traverse en plein jour avec son côté noir, non éclairé par le Soleil, en face de nous. Pour que l'alignement puisse se produire, il faut que la nouvelle Lune se déroule alors que la Lune est très près d'un des points d'intersection entre son orbite et l'écliptique, qu'on appelle nœud dans le jargon astronomique. Il y en a deux opposés sur l'orbite lunaire, et durant la révolution de la Terre autour du Soleil en un an, cela peut produire généralement deux éclipses dans l'année, à environ 6 mois d'intervalle. Il y avait une éclipse de Soleil annulaire le 19 décembre dernier, visible en Asie et en Australie, et il y aura de nouveau une totale le 14 décembre prochain, observable en Argentine et au Chili. Dans le calendrier, ces éclipses se combinent avec celles de la Lune, car quand l'alignement est possible dans l'ordre Terre-Lune-Soleil, on peut comprendre que l'alignement peut aussi se produire quand la Lune passe par l'autre nœud de son orbite, soit 15 jours avant ou après, à la pleine Lune, produisant cette fois une éclipse de Lune, alignement Lune-Terre-Soleil. Il y avait bien une éclipse de Lune le 5 juin dernier, et il y en aura une de nouveau le 5 juillet prochain, mais malheureusement, toutes deux par la pénombre, ce qui veut dire que la Lune ne pénètre pas dans l'ombre de la Terre, mais ne fait que la frôler, produisant juste une petite baisse de luminosité de la pleine Lune à peine perceptible. Et il en ira de même le 30 novembre prochain, 15 jours avant la prochaine éclipse totale de soleil.
Alors, précision Michel, l'éclipse annulaire ou cercle de feu cher aux médias, comment ça marche exactement ?
Alors, il faut se souvenir que, comme le dit la première loi de Kepler sur les mouvements des planètes, les orbites ne sont pas des cercles mais des ellipses. Même si elles sont très peu aplaties, cela suffit à produire des petites différences dans la distance de la Terre au Soleil au cours de sa révolution annuelle ou de la Terre à la Lune dans son cycle mensuel. Donc les deux astres n'ont pas exactement toujours la même taille apparente dans le ciel. Quand la Lune est plutôt proche, donc plus grosse, et le Soleil plutôt lointain, donc plus petit, il n'y a pas de problème pour avoir une éclipse totale, et qui aura même tendance à durer un peu plus longtemps. Par contre, quand c'est la Lune qui est plus petite et le Soleil plus gros, elle n'arrive pas à le masquer complètement, et elle laisse donc apparaître un anneau lumineux du Soleil autour d'elle, et c'est une éclipse annulaire. Selon les conditions d'alignement Terre-Lune-Soleil, il peut même y avoir des éclipses dites hybrides, où l'éclipse passe de totale à annulaire le long du parcours de l'ombre de la Lune sur la Terre ou inversement. Et dans certains cas, l'alignement n'est pas observable de la surface de la Terre, l'ombre de la Lune passant juste au-dessus du pôle nord ou sous le pôle sud, et l'éclipse n'est que partielle où qu'on se trouve sur Terre. Pour finir, il faut savoir que nos descendants devront s'habituer aux éclipses annulaires, car comme la Lune s'éloigne de nous tout doucement depuis sa formation, environ de 4 cm par an, les éclipses totales deviendront progressivement de plus en plus rares jusqu'à disparaître totalement. Alors bon, ce n'est pas pour demain non plus, hein, car les astronomes estiment que cela se produira dans environ 600 millions d'années. On peut quand même méditer sur le fait que nous autres humains, présents sur Terre depuis moins de 5 millions d'années, sommes là au bon moment pour pouvoir admirer des éclipses totales de Soleil, nous permettant de nous interroger sur la mécanique céleste réglant le balai des planètes et des satellites, et sur l'étrange couronne solaire qui ne nous est apparente qu'à ces très rares occasions. En tout cas, c'est un spectacle grandiose qu'il faut essayer de voir au moins une fois dans sa vie.
Allez, troisième partie de votre chronique, toujours avec Michel Favret en direct sur de radio. Et Michel, vous allez nous parler du ciel du mois.
Oui, alors comme c'était l'habitude chaque mois, je vais rapidement évoquer le ciel du mois de juillet en renvoyant plutôt les auditeurs vers la rubrique « Ciel du mois » de la section astronomie de notre site web, hein, www.constellationsdesgalaxies.org, pour voir les cartes, hein, parce qu'à la radio, c'est pas facile de montrer des cartes, voir les cartes du ciel correspondantes et avoir plus de détails. Avec le solstice d'été, ce n'est pas vraiment la période la plus favorable pour observer le ciel, avec des nuits très courtes et surtout qui commencent très tard. En ce moment, le soleil ne se couche guère avant 22h et la nuit arrive seulement vers 23h15, et même minuit et demi si on attend un ciel bien noir. À la fin juillet, le coucher sera vers 21h30 et la nuit vers 22h45. Comme nous sommes encore au début de l'été, en tout début de nuit, le ciel est partagé entre les constellations du ciel de printemps, comme le Lion et la Vierge, qui occupent la moitié ouest, et celles de l'été, comme le Cygne et l'Aigle, qui occupent la moitié est. Fin juillet, le ciel de printemps aura déjà largement disparu avec le Lion à demi couché en début de nuit. Et les constellations de l'été bien installées avec le Sagittaire et le Scorpion près de l'horizon sud et la trace claire de la Voie lactée partant d'elle pour monter le long de l'Aigle jusque vers le Cygne, leurs deux étoiles les plus brillantes, respectivement Altaïr et Deneb, formant avec Vega de la Lyre le fameux triangle de l'été, visible dès le crépuscule et permettant de situer facilement les principales constellations de la saison. Côté planète, les vedettes de nos soirées seront Jupiter, très brillante, et pas très loin à l'est, Saturne, à l'éclat moindre, mais reconnaissable à sa couleur jaunâtre. Actuellement, Jupiter se lève en début de nuit et Saturne vers 23h30, et il faut patienter un peu pour pouvoir les observer dans de bonnes conditions. Par exemple, avec une paire de jumelles, pour apercevoir les quatre principaux satellites de Jupiter, comme des petites étoiles alignées auprès de la planète. Malheureusement, ce genre d'instrument ne grossit pas suffisamment pour voir les anneaux de Saturne, comme on pourra le faire dans les télescopes à l'occasion des Nuits des étoiles début août où les astronomes accueilleront le public pour observer avec eux. Et dans de meilleures conditions et plus tôt, car fin juillet, ces planètes seront bien visibles dès le début de nuit, Jupiter passant au plus haut de son parcours dans le ciel autour de 1h du matin. Ces deux planètes sont rejointes un peu plus tard par Mars à la teinte orangée. Aujourd'hui, c'est vers 2h du matin, mais fin juillet, vers minuit et demi. Mars a déjà un éclat supérieur à celui des étoiles, et il continuera à augmenter jour après jour, car nous nous rapprochons d'elle, jusqu'à l'opposition en octobre. Vénus, qui était bien visible le soir ces derniers mois, réapparaît progressivement dans les lueurs de l'aube, jusqu'à se lever 3h avant le soleil à la fin juillet, c'est-à-dire vers 3h30 du matin à peu près. Comme toujours, ces planètes produisent des conjonctions avec la Lune. Le dimanche 5 juillet, la pleine Lune formera un triangle avec Jupiter et plus loin Saturne, Et le lendemain, lundi 6, les trois astres seront presque alignés avec Saturne entre la brillante Jupiter et la grosse Lune. Puis le dimanche 12, le gros quartier de Lune se lèvera vers 1h30 proche de Mars, environ la largeur de deux doigts bras tendus. Il faudra ensuite patienter jusqu'au vendredi 17 pour voir à partir de 4h du matin environ le fin croissant de Lune près de Vénus, formant un triangle avec Aldébaran, l'étoile la plus brillante du taureau. Pour ceux qui peuvent regarder le ciel assez loin de la pollution lumineuse des villes, il est possible d'essayer d'observer samedi prochain, le 27 juin, la chute des Bootides, des étoiles filantes qui peuvent être assez nombreuses, comme ça s'est produit lors d'un sursaut imprévu en 1998. À observer plus tôt après le coucher du quartier de Lune, soit après 1h30 du matin. À partir de la mi-juillet, ce sera le retour annuel des Perséides, qui animent nos nuits estivales et qui sont à l'origine des Nuits des Étoiles, qui, je le rappelle, s'appelaient au départ Nuits des Étoiles filantes lors de leur création en 1991. Et ce sera sans doute le principal sujet de notre prochaine chronique, en principe le mercredi 29 juillet, en espérant que d'ici là, il sera possible de revenir physiquement au micro d'O2 Radio, puisque comme chaque année, nous y inviterions les clubs astronomiques de la région bordelaise à présenter leurs animations pour cette opération nationale très populaire, et notamment Corinne, présidente d'Astronomie Gironde 33, un G33, qui m'a déjà assuré de sa participation.
Voilà, on est toujours sur de radio, Michel Favré, pour cette chronique 64. Alors Michel, bien sûr, on espère pouvoir se retrouver de manière physique et justement parler de ces Nuits des Étoiles. Mais juste un dernier mot, on a juste quelques instants avec l'association Constellations et Galaxies. Du coup, avec le confinement, même si on est en période dite de déconfinement, ça impacte comment pour les activités de l'association?
Si je veux faire simple, je veux dire que c'est la cata. Hein, parce que depuis mars, il n'y a plus aucune activité de l'association. Notre principale animation, c'était bien sûr le planétarium itinérant, hein, qui se rendait notamment en période scolaire dans les établissements scolaires, hein, donc une coupole gonflable avec un projecteur spécial permettant de montrer le ciel aux élèves. Et c'est totalement incompatible avec les mesures sanitaires de précaution, hein. On est trop près dans le planétarium. Sous la coupole, c'est un espace confiné assez petit par rapport au nombre de personnes que ça peut accueillir. Et l'air est brassé sans arrêt par la ventilation. Et je suis en contact avec mes collègues en France. Hein, il y a une espèce de communauté des planétariums. Et je sais que pour tous, c'est le même problème. Aujourd'hui, on ne voit pas très bien comment on pourrait reprendre ces activités. Les seuls planétariums qui redémarrent sont les grands planétariums, hein, des grandes salles, hein, qui finalement ont un peu le même genre de problème que les salles de spectacle ou les cinémas. Donc en réduisant le nombre de participants dans le public et en mettant en place quelques mesures comme le nettoyage, enfin éventuellement des masques pour se déplacer, etc., ils commencent petit à petit à réouvrir. Mais les petits planétariums comme nous, je dis pour la France, mais je pense que le problème se pose même bien au-delà de nos frontières, les petits planétariums actuellement ne peuvent pas fonctionner. C'est impossible.
Voilà, je sais, on en avait discuté, bien sûr, de cette conjoncture. En tout cas, Michel, merci hein, pour cet enthousiasme, cette passion que vous venez nous faire partager. Donc, c'était la chronique Astro numéro 64. Donc, voilà, on prend date pour le mercredi 29 juillet prochain. Et on espère, de manière physique, comme vous le rappeliez en fin de votre chronique, eh bien, pouvoir avoir des invités pour parler des étoiles. Michel, un dernier mot avant qu'on se quitte?
Je vois rien de particulier, les Nuits des Étoiles, juste pour prévoir un petit peu, ça devrait être le 7 et le 8 août, en principe.
Voilà, mais on en parlera. Alors, si malheureusement on ne pourra pas se retrouver de manière physique, voilà, on maintiendra quand même le lien. En tout cas, merci, hein, Michel, voilà, pour cette chronique. Et on note bien, 29 juillet prochain, prochaine chronique. Merci beaucoup, Michel.
Au revoir.